mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh,
oh.
L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte de sorcier du recueil Risette et Espièglerie, intitulé Grincheuse la sorcière. Cet instant sera suivi par la rubrique Texte historique. Nous y entendrons un texte de Condorcet de 1792 sur l'instruction publique. Viendra ensuite la rubrique Environnement avec un extrait de science-fiction de Julien Elbrock Caldironi, la parole de Pierre Rigaud et la recette éco-geste pour réaliser des tablettes pour la vaisselle. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons salariés enceinte. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti. Vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Grincheuse la sorcière de Barbara Houle dans le recueil Risette et Espièglerie. La chaumière des cerisiers était un endroit charmant. Il y avait des fleurs qui poussaient autour de la porte. Le jardin était joli et bien entretenu, ainsi que la chaumière elle-même. C'est là que vivait Grincheuse la sorcière, en compagnie de son chat. Aude, le chat, était assez surprenant, car il avait un œil vert et l'autre jaune, ce qui, après tout, n'était pas étonnant pour un chat de sorcière. La pauvre grincheuse se rendait la vie bien difficile. Elle n'était jamais satisfaite, rien n'était jamais assez parfait. Tout devait être bien rangé, que ce soit dans le jardin ou dans la chaumière. Elle était tellement méticuleuse. À ce même moment, elle se trouvait devant la maison de Richie Willy, le cordonnier, et elle essayait de faire partir un essaim d'abeilles qui s'était installé sur la porte nouvellement peinte. Les abeilles préféraient la peinture jaune au tronc d'arbre qui était leur maison. Richie Willy voulait qu'elle s'en aille.
« Partez les abeilles, partez, ai-je dit. Bzzz, bzzz, venez par ici !»
commanda Grincheuse. La masse des abeilles partit et la reine des abeilles resta seule. À ce moment, elle prit son envol et atterrit au sommet du chapeau pointu de Grincheuse. Voyant cela, tout le reste des abeilles fonça et s'installa aussi sur le chapeau de la sorcière. « Allez-vous bien ?» demanda Richie Willy quand il vut la masse des abeilles agglutinée sur le chapeau de Grincheuse. Grincheuse ne lui répondit pas. Enfourchant son balai, elle s'éleva dans les airs et survola les arbres. Cela prit les abeilles par surprise, elles tombèrent du chapeau, mais elles continuèrent à la suivre comme une traînée de fumée sombre. « Venez vivre dans ma ruche, si vous voulez vous installer quelque part », proposa-t-elle aux abeilles en atterrissant dans son jardin. La reine des abeilles était restée sur son chapeau. Tout s'était passé si rapidement que la pauvre ne savait même plus où elle se trouvait. Grincheuse se dirigea alors vers une ruche vide et s'adressa à la reine des abeilles. « Installez-vous et consacrez votre temps à faire du miel plutôt que d'errer de par le monde. » Grincheuse sentait qu'elle avait un peu exagéré avec Richie Willy. Elle ne lui avait même pas dit au revoir. Oh, elle avait vraiment été désagréable ces derniers temps. Quand elle pénétra dans sa chaumière, Aude, le chat, courut vers elle et enroula sa queue autour de ses jambes. « Laisse-moi, chat !» cria Grincheuse. « J'ai mal aux pieds. Je suis fatiguée et je veux m'asseoir. » Elle avait oublié de prendre son petit déjeuner ce matin-là et son estomac commençait à crier famine. Le chat dit avec insolence « Quel mauvais caractère tu as !» « Aude a raison, j'ai mauvais caractère et, oh, comme mes pauvres pieds me font souffrir !» se dit Grincheuse en mettant à bouillir de l'eau pour le thé. Ceci fait, et ayant retiré ses bottines, elle se sentit mieux. Ses pieds étaient son problème, et c'est une chose terrible pour une sorcière. Ses bottines lui blessaient les pieds. Mais elle ne pouvait pas sortir de sa chaumière sans elle. Elle devait les porter, quand elle avait du travail à faire, même si elle la meurtrissait. Grincheuse donna au chat une secoupe de lait et le caressa gentiment. Malgré son nom, elle n'était pas si grincheuse que ça. C'était seulement ses pieds qui la rendaient désagréable. Elle remplit un récipient d'eau chaude, se versa une tasse de thé et mit le récipient par terre. Puis elle glissa ses pieds douloureux dans l'eau chaude. À ce moment, Richie Willy poussa la porte. Quand Grincheuse était rentrée, épuisée, elle n'avait pas pris la peine de la fermer correctement. Aude le chat courut à sa rencontre, car Richie était son ami et il était ravi de le voir. Grincheuse ne partageait pas son enthousiasme. Ça ne l'amusait pas du tout que Richie Willy la vit en train de prendre un bain de pieds. Si elle n'avait pas été si impatiente de retirer ses bottines, elle n'aurait pas oublié de fermer la porte. « Zut !» se dit-elle, furieuse contre elle-même. Il lui fallait rester où elle était. Elle n'avait pas le choix. « C'était si aimable à vous de chasser ces abeilles !» « Votre porte était ouverte, je suis entrée. J'espère que je ne vous dérange pas. » Richie Willy s'arrêta de parler lorsqu'il vit le regard furibond que Grincheuse lui lançait. En fait, il était grandement concerné car, étant cordonnier, les bottines et les chaussures que les gens portaient l'intéressaient en tout premier lieu. « Oh mon Dieu !» pensa-t-il lorsqu'il vit les pauvres pieds enflés. Maintenant, il savait pourquoi la sorcière l'avait quitté si précipitamment. « Chère sorcière, dit-il, c'était très aimable à vous de me débarrasser de ces abeilles assommantes. Vous avez quitté mon jardin avant de me laisser le temps de vous demander ce que je pouvais faire pour vous remercier. Vous ne cessez de me rendre service. » Grincheuse eut honte d'elle-même. Comment avait-elle pu être si désagréable avec un homme si gentil ? « C'est chic de vous être dérangée, » dit-elle. « Je regrette d'être partie comme cela, mais vous comprenez pourquoi à présent. Mes pieds me font terriblement souffrir. Que faire ? Richie Willy sut aussitôt comment il pouvait payer sa dette. Il constata alors que les bottines étaient beaucoup trop petites. Il était facile d'aider la sorcière. Il lui ferait une nouvelle paire de bottines. « Voulez-vous me permettre de vous faire une nouvelle paire de bottines, juste comme celle-ci, mais dans une pointure qui sera plus confortable ?» demanda-t-il. Grincheuse et le chat furent ravis. Des jours heureux commenceraient pour eux si les pieds de Grincheuse allaient mieux. Elle accepta donc. Quand elle eut séché ses pieds, Richie Willy les mesura soigneusement et après avoir dit au revoir, retourna chez lui. Richie Willy travailla toute la nuit et le lendemain, à l'aube, il déposa les bottines devant la porte de Grincheuse. Lorsque la sorcière ouvrit la porte pour laisser sortir Aude, elle découvrit une nouvelle paire de bottines noires, douces et souples. Elle les essaya immédiatement. Elles étaient parfaites et si confortable qu'elle sauta de joie. Son estomac fit son gargouillis habituel, lui rappelant que ni le chat ni elle n'avaient pris de petit déjeuner. Elle fit du thé et donna du lait à Aude. Elle se prépara même un toast beurré et le mangea avec délices. Puis Aude et elle s'assirent devant le feu, se sentant très heureux. « J'irai voir mes sœurs. Voilà ce que je ferai. J'enfourcherai mon balai et je t'emmènerai, » promit Grincheuse à Aude. C'était une bonne idée, car il y avait de nombreuses lunes qu'elle n'avait pas vues paresseuses et maladroites. Elle pourrait remarquer ses jolies bottines neuves et elle constaterait combien son caractère était devenu doux et agréable. C'est ainsi que Grincheuse et son chat Aude, à califourchon sur le balai, s'envolèrent au-dessus des arbres.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où ?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers ? Des résistants, avec un grand R.
Oh !
Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'occupent des autres.
Wow !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. Condorcet, Assemblée législative, 20 et 21 avril 1792.
Messieurs, offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs, assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but d'une instruction nationale. Et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Diriger l'enseignement de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent, qu'un plus grand nombre d'hommes deviennent capables de remplir les fonctions nécessaires à la société et que les progrès toujours croissants des Lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens, de bonheur individuel et de prospérité commune, cultiver enfin dans chaque génération les facultés physiques, intellectuelles et morales, et par là contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée, tel doit être encore l'objet de l'instruction. Et c'est pour la puissance publique un devoir imposé par l'intérêt commun de la société, par celui de l'humanité entière. Nous n'avons pas voulu qu'un seul homme dans l'Empire pût dire désormais « La loi m'assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m'entoure. On m'a bien appris, dans mon enfance, ce que j'avais besoin de savoir, mais, forcé de travailler pour vivre, ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m'en reste que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non la volonté de la nature, mais l'injustice de la société. Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres, la fortune de vos parents n'a pu vous procurer que les connaissances les plus indispensables, mais on vous assure des moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez les développer et ils ne seront perdus ni pour vous ni pour la patrie. Ainsi, l'instruction doit être universelle, c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l'égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire et le temps, plus ou moins long, que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes, dans tous les âges de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances ou d'en acquérir de nouvelles. Enfin, aucun pouvoir public ne doit avoir ni l'autorité, ni même le crédit, d'empêcher le développement des vérités nouvelles. L'enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. Tels ont été les principes qui nous ont guidés dans notre travail. On pourrait aussi nous reprocher d'avoir, au contraire, trop resserré les limites de l'instruction destinée à la généralité des citoyens. Mais la nécessité de se contenter d'un seul maître pour chaque établissement, celle de placer les écoles auprès des enfants, le petit nombre d'années que ceux des familles pauvres peuvent donner à l'étude, nous ont forcés de resserrer cette première instruction dans des bornes étroites. Et il sera facile de les reculer lorsque l'amélioration de l'état du peuple, la distribution plus égale des fortunes, suite nécessaire des bonnes lois, les progrès des méthodes d'enseignement en auront amené le moment. Lorsque, enfin, la diminution de la dette et celle des dépenses superflues permettra de consacrer à des emplois vraiment utiles une plus forte portion des revenus publics. La Constitution, en reconnaissant le droit qu'a chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de la France, ne permet point d'admettre, dans l'instruction publique, un enseignement qui, en repoussant les enfants d'une partie des citoyens, détruirait l'égalité des avantages sociaux et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Il est donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux. La distribution du travail dans les grandes sociétés établit entre les facultés intellectuelles des hommes une distance incompatible avec cette égalité, sans laquelle la liberté n'est pour la classe moins éclairée qu'une illusion trompeuse. Et il n'existe que deux moyens de détruire cette distance. Arrêter partout, si même on le pouvait, la marche de l'esprit humain, réduire les hommes à une éternelle ignorance, source de tous les maux, ou laisser à l'esprit toute son activité et rétablir l'égalité en répandant les lumières. Tel est le principe fondamental de notre travail. Et ce n'est pas dans le XVIIIe siècle que nous avons à craindre le reproche d'avoir mieux aimé tout élever et tout affranchir que de tout niveler par l'abaissement et la contrainte. D'ailleurs, la Constitution française elle-même nous fait de cette indépendance un devoir rigoureux. Elle a reconnu que la nation a le droit inaliénable et imprescriptible de réformer toutes ses lois. Elle a donc voulu que, dans l'instruction nationale, tout fût soumis à un examen rigoureux. Elle n'a donné à aucune loi une irrévocabilité de plus de 10 années. Elle a donc voulu que les principes de toutes les lois fussent discutés, que toutes les théories politiques puissent être enseignées et combattues, qu'aucun système d'organisation sociale ne fût offert à l'enthousiasme ni aux préjugés comme l'objet d'un culte superstitieux, mais que tous fussent présentés à la raison comme des combinaisons diverses entre lesquelles elle a le droit de choisir. Aurait-on réellement respecté cette indépendance inaliénable du peuple si on s'était permis de fortifier quelques opinions particulières de tout le poids que peut leur donner un enseignement général? Et le pouvoir qui se serait arrogé le droit de choisir ses opinions n'aurait-il pas véritablement usurpé une portion de la souveraineté nationale?
Allumeurs de réverbère.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbère.
Coup d'œil de Julien Elbroek Caldironi. Extrait de l'anthologie officielle des Utopiales 2022. Le jour J, Krélis et Petra prirent leur service comme d'habitude. Si quelqu'un les avait observés et sous réserve de bien les connaître, ils auraient pu constater la nervosité des deux éboueurs, notamment par leur silence et leur petite maladresse dans les procédures de démarrage de leur nef. Mais personne ne les observait. Et pas grand monde ne les connaissait. Le vaisseau quitta la station creusée dans un satellite naturel fait de roches rougeâtres pour gagner lentement le mastodonte décédé. Devant le spectacle, auquel ils n'arrivaient pas à s'habituer, le duo resta taiseux et oublia un instant le sacrilège qu'il s'apprêtait à commettre. Krélis tapota le coude de sa collègue et lui désigna un point de l'architeutis crevé, la section au-delà de la dorsale 7, qui se matérialisait par une espèce de bosse dans la chitine. Quelques esquilles cartilagineuses perçaient ici et là l'énorme segment de chair morte emprisonné dans l'armure naturelle sur laquelle creusaient des types avec des combinaisons à peine meilleures que les leurs. Et tout cela, sous la surveillance des militaires montés dans des capsules sphériques flottant dans le vide spatial et relié au cadavre par de longues courroies faites avec les tendons du monstre. De si loin, Petra et Krélis pouvaient voir les lueurs des foreuses en pleine action. Au-dessus d'eux, déjà, des débris que les entrailleurs poussaient hors de la zone interdite. Ce n'était pas n'importe quel mineur de chair qui œuvrait là-bas. Seuls les meilleurs, les ouvriers récompensés, dont la Hanse, s'assurait la plus grande loyauté à coup de généreuses primes et de séjours de congés réguliers à Juville ou ailleurs. Par conséquent, cette élite jalousée était détestée par pratiquement tout le monde. Ils vivaient à part, dans un quartier de truiderie qui leur était spécialement réservé. « Il faudra faire gaffe à ne pas être aussi repéré par ces enfoirés, » marmonna Petra. Krélis approuva. « De toute façon, nous n'existons pas à leurs yeux. Et Alicane nous a bricolé un canal de communication rien qu'à nous. Ils ne peuvent pas nous capter, même s'ils le voulaient. Allez, on y va. » Le Prulonbach se dirigea au seuil du secteur interdit.
« Que le saint Aruspice nous pardonne. Lui qui sait tout, qui voit tout de ces divines chasses, on va vite se rendre compte si c'est réellement le cas. » chuchota Petra.
« Si ça se trouve, la Hanse ne lui dit pas tout. Je pense qu'il n'approuverait pas les conditions dans lesquelles on vit. S'il voit ce qu'on fait et que c'est vraiment un saint, je crois qu'il n'en dira rien. » répliqua Krélis.
Il essayait d'insuffler un peu de sa foi qu'il avait chevillée au corps jusqu'à son cerveau en pleine crise d'anxiété.
« Si ça se trouve, » répéta Petra renfrognée. Elle stabilisa les commandes de la nef à 3 lieues de la zone interdite.
« On finira à dos de Barbac. »
Le ton était faussement enjoué. Krélis marmonna une prière tandis qu'il enfilait sa combinaison et coiffait son home. Petra le suivit jusqu'au sas. Avant de glisser ses gants, Krélis ouvrit un volet près du siège de pilotage et inséra une pierre au reflet bleuté dans un orifice prévu à cet effet. « Pourquoi ils ne nous ont pas remplacés par ces cristaux depuis longtemps? Il suffit de programmer les nefs, » demanda Petra.
« Les machines ne sont pas aussi performantes que nous. Et si des débris s'accumulent trop dans les zones de forage, ça peut provoquer des accidents graves. »
« Et endommager les gisements et les récoltes. »
Exactement. Ils plongèrent dans l'immensité glacée du cosmos, le cadavre du dieu au-dessous d'eux qui flottait avec toute la quiétude des choses mortes.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Salariée enceinte. Version en vigueur au 25 novembre 2024. Paragraphe 1. Nécessité médicale. Article L1225-7. La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi à son initiative ou à celle de l'employeur si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressé. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération. Article L1225-8. Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation. Paragraphe 2. Travail de nuit. Article L1225-9. La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal natale et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois, lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Article L1225-10. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, elle lui fait connaître par écrit ainsi qu'au médecin du travail les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L1225-9. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail composée de l'allocation journalière prévue à l'article L333-1 du Code de la Sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté. Article L1225-11. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles petit 1 L1225-4 relatifs à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Petit 2 L1225-17 relatif au congé maternité. Petit 3 L1225-29 relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal. Petit 4, L1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel constaté par le médecin du travail. Petit 4 bis, L1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Petit 5, L4624-3 et L4624-4, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. Paragraphe 3. Exposition à des risques particuliers. Article L1225-12. L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état. Petit 1. Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée. Petit 2. Lorsqu'elle a accouché compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. Article L1225-13. La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en œuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Article L1225-14. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévu au petit 2 de l'article L1225-12. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail composée de l'allocation journalière prévue à l'article L333-1 du Code de la Sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L1226-1 à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté. Article L1225-15. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles. Petit 1, L1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Petit 2, L1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel constaté par le médecin du travail. Petit 2 bis, L1226-10, relative à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Petit 3, L4624-3 et L4624-4, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. Pour plus d'informations, rendez-vous à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 de la première partie de la partie législative du Code du travail.
Bravo, le Code du travail! C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical, Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.